Exploration, gagner en XP dans le JV.
S'il y a bien une phrase qu'il y a une dizaine d'années je n'entendais pas, c'est bien celle-ci. C'est un jeu indépendant. Alors, s'il m'est arrivé de la dire aussi, cette phrase, qu'est-ce qu'elle signifie réellement ? Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer sémiologiquement le choix du pronom « cela », ici utilisé dans sa forme raccourcie, c'est apostrophe, pour coller avec la troisième personne du singulier du verbe « être », conjugué au présent de l'indicatif, ni même le déterminant indéfini « un », et encore moins le nom « jeu », puisque vous écoutez une chronique qui parle de jeux vidéo. Non, ce qui m'intéresse, c'est bien le dernier mot de la phrase « indépendant ». Qu'est-ce que c'est un jeu indépendant ? En effet, à l'aube des années 2010, alors que je n'étais pas encore au collège et que j'hésitais à entreprendre Monster Hunter 3 et Xenoblade Chronicles à l'espace culturel de Leclerc de Mont-de-Marsan, je ne connaissais pas le terme « jeu indépendant ». Et pas grand nombre de monde non plus. En fait, ce n'est pas spécialement lié au fait que la puberté ne m'avait pas encore frappé de plein fouet. En effet, la scène indépendante du jeu vidéo, c'est un phénomène plutôt récent par rapport à l'âge du média. D'ailleurs, c'est un sujet bien trop vaste, alors ne vous attendez pas à quelque chose d'exhaustif, puisque je n'ai pas prévu de transformer passage en exploration le temps d'une chronique. En tout cas, pas aujourd'hui. Parce que bon, quand je vous dis jeu indé, normalement, l'une des premières choses à quoi cela doit vous faire penser, c'est cinéma indépendant. Par là, vous comprenez normalement que tout comme le cinéma indépendant, les jeux vidéo indé, ce sont des jeux produits sans le soutien financier de gros actionnaires et autres sponsors. Ainsi, les créateurs ont une plus grande liberté vis-à-vis de leur œuvre. Alors oui, dans la logique, c'est tout à fait ça. Cependant, avec le temps, le terme a évolué et a surtout été repris par le marketing. Le terme indé est désormais bien plus flou, mais vous allez voir que ce n'est pas plus mal, en effet. Techniquement, un jeu indépendant, c'est par exemple le premier Tetris. Créé en 1984 par l'ingénieur soviétique Alexei Pajitnov, Tetris, c'est un jeu conçu sans aucun soutien financier. Ce n'est qu'après une lutte effrénée entre différentes compagnies pour avoir les droits d'exploitation que le jeu sera un succès commercial planétaire. Mais à la base, c'est un jeu produit en indépendant. Ainsi, vous l'aurez compris, globalement, pas mal de jeux indépendants vont voir le jour au balbutiement du jeu vidéo, principalement grâce à l'arrivée des micro-ordinateurs dans les foyers de milliers de curieux. Ces jeux seront soit vendus par correspondance, soit avec l'arrivée d'Internet, partagés en ligne. On appelle ça des shareware ou des partagiciels en français, dont les représentants les plus notables sont Wolfenstein 3D et Doom, soit les premiers jeux de tir à la première personne. Et pour vous donner un autre exemple de partagiciel en dehors du jeu vidéo, quel meilleur exemple que WinRAR, soit le logiciel avec une période d'essai infinie. Pour vous dire, même si j'avais de l'argent à ne plus savoir quoi en faire, je suis sûr que je n'achèterais pas la licence. Bref, revenons-en aux jeux indépendants. Tous ces vieux titres sont désormais possédés par différents gros éditeurs du marché du jeu vidéo, qui n'ont pas hésité à en faire des suites, histoire de se faire du pognon. Ainsi, dans les années 2000, la scène indépendante, pour ainsi dire, va être invisibilisée, presque inexistante, tant il était difficile de développer des jeux par soi-même sur les consoles de l'époque, ou encore de ne pas être démoli par la concurrence que représentaient Square Enix, Capcom, Ubisoft, Activision ou encore Electronic Arts. Et ça, c'est sans compter les consoliers comme PlayStation ou Nintendo, qui proposaient déjà à l'époque des jeux d'excellente qualité, volant la vedette à des dizaines d'autres. Ceci dit, Microsoft, avec sa Xbox, va venir mettre un peu le bazar et relancer les dés. En effet, à une époque où les gros studios développaient sur console et les petits développaient sur navigateur internet grâce à Adobe Flash Player, qui permettait la lecture de petits jeux sur des pages web, Xbox lance son magasin de jeux en ligne, le Xbox Live Arcade. Alors, si sur sa première Xbox, le magasin devait être installé en se procurant un disque d'installation via des magazines spécialisés ou depuis le site internet du fabricant, c'est réellement avec la Xbox 360 que le service va bien marcher au point que désormais, toutes les consoles possèdent leur magasin en ligne et que les jeux dématérialisés se vendent plus que le physique. Mais ce qui est réellement intéressant avec le Xbox Live Arcade, c'est l'arrivée petit à petit de jeux produits par de parfaits inconnus. Les exemples les plus connus étant Braid, un jeu de plateforme et de puzzle conçu par Jonathan Blow, et Super Meat Boy, lui aussi un jeu de plateforme, cette fois-ci conçu par Edmund Macmillan et Tommy Wefenes. Ces deux jeux représenteront avec d'autres petits jeux la première vague de jeux indépendants nouvelle génération. Des succès mérités qui se valideront encore plus au fil des années, notamment lors de leur publication sur ordinateur via la plateforme Steam, qui va dès lors modifier son modèle de publication afin de permettre à un plus grand nombre de jeux de voir le jour. Ces vagues de jeux indépendants ne sont pas définies précisément dans le temps. D'ailleurs, parler de vagues n'est pas très représentatif, tant de nombreux jeux développés en indépendant vont de plus en plus sortir, par la suite, tous avec des styles très différents. Si l'esthétique rappelant les jeux Flash était très présente sur les jeux qui vont relancer l'indé, d'autres apparaîtront et se feront un petit nid dans l'esprit des joueurs et des joueuses, notamment avec l'avènement de la PlayStation 4 et de la Xbox One. Que ce soit en pixel art, soit tout pixelisé, en hommage au titre de la Mega Drive de Sega et la Super NES de Nintendo, ou bien en low poly, soit avec des décors tout polygonaux à la façon de la Nintendo 64 ou encore de la première PlayStation, les jeux indépendants vont piocher un peu partout pour se donner un genre, et pas que dans le jeu vidéo, puisque la bande dessinée ou encore tout simplement la peinture seront aussi de riches nids d'inspiration. Et donc, une nouvelle forme de jeu indé va voir le jour, une forme commerciale. En effet, au vu des succès de ces titres développés par des petites équipes, des éditeurs de jeux indépendants vont apparaître. Donc, je sais que ça sonne comme un paradoxe, mais c'est bien vrai, il existe ce qu'on appelle désormais des labels indépendants. Ainsi vont naître des éditeurs qui vont faire toute leur réputation sur la publication de jeux dits indépendants, ou en tout cas, qui en possèdent l'esthétique. Dès lors, être indé, c'est plutôt paraître indé, puisque des éditeurs participent au financement des œuvres. Cependant, à la différence de certains gros éditeurs donc, que j'ai cités avant, eh bien, les labels indépendants sont connus pour offrir toute la liberté créative nécessaire aux studios. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'on utilise le terme label, c'est pour bien montrer qu'il s'agit d'une forme de publication plus proche de l'industrie musicale où un artiste reste libre de produire des titres correspondant à sa vision. Ainsi, certains labels essayent de se construire des identités, comme Devolver Digital, qui a pendant longtemps été associé à la franchise Hotline Miami, connu pour son esthétique pixelisée et très violente. Dès lors, beaucoup de productions éditées par Devolver tendaient vers un style soit rétro, soit violent. D'autres labels, comme Annapurna Interactive, ont préféré se rabattre sur des titres avec des esthétiques simples, mais envoûtantes et colorées. Aussi, il est toujours possible de créer une œuvre de son côté en s'autofinançant ou en ayant recours à du financement participatif ou d'autres aides données par les gouvernements et régions. Ainsi, le jeu indépendant est désormais très célébré pour ses propositions uniques qui dénotent avec le reste des grosses productions et des licences historiques du paysage vidéoludique. Par conséquent, moi aussi, il m'est arrivé de parler de jeux indés dans mes chroniques disponibles sur le SoundCloud de Radio Campus. Tony Boy Commits Tax Evasion, Among Us, Point P, A Short Hike, Cats and Soup, ne jouez pas à celui-ci, et Kentucky Route Zero, des titres marquants tant ils offrent des expériences à part. Et ça, c'est sans compter tous ceux que j'ai déjà pu citer dans d'autres chroniques. Mais si c'est la première fois que vous m'écoutez, vous devez vous dire, c'est bien beau, mais tes jeux là, ce ne sont pas des best-sellers. On voit bien que le jeu indé, ça ne vend pas autant qu'un FIFA ou un Mario. Alors, globalement, oui, mais il y a toujours des exceptions, et quelle meilleure exception que le jeu le plus vendu de tous les temps, Minecraft. Développé par le Suédois Marcus Persson, Minecraft, c'est avant tout un jeu indépendant avant d'être plus tard racheté par Microsoft. Comme quoi, un bon concept créé dans son garage, cela peut être un gros succès. Un succès qui sera tout de même nécessaire de nuancer dans une autre chronique, car l'histoire de Minecraft et de son créateur est très intéressante. Mais ceci dit, on ne se dit pas au revoir tout de suite, car j'aime bien clôturer mes chroniques en musique. Cependant, il y a tellement de musiques de jeux indépendants formidables que c'était trop difficile pour moi d'en choisir une en particulier. Aussi, j'ai réalisé une sélection pour démontrer que beaucoup de productions indépendantes possèdent des bandes originales excellentes. Ainsi, autour de la table, je vais vous demander de me donner un nombre entre 1 et 10. Je vais ensuite faire la moyenne de vos réponses et nous écouterons la musique issue de ma sélection qui correspond au résultat. Mais après vous avoir présenté brièvement l'œuvre dont est issu le morceau, évidemment. Donc Alexandre, donne-moi un nombre entre 1 et 10.
6.
Allez. Ok. Elsa.
8.
5.
Alors, 5, 6, 8, je suis nul en maths, j'aurais dû sortir ma calculatrice avant. Non, attendez, 5, 19. Plus 6, plus 8, 19, 19 divisé par 3, ça fait environ un peu plus de 18, je vais arrondir au chiffre d'au-dessus. On va donc écouter une une OST. Donc, Léo, tu vas pouvoir ouvrir le petit dossier qui s'appelle Roulette Indé.
C'est fait.
Donc, on va s'écouter une OST de Dead Cells. Dead Cells, c'est un jeu d'action-aventure plateforme édité et développé par les Bordelais de la Motion Twin. C'est donc un pur jeu indépendant. Dans ce jeu, où votre but est de sortir à chaque partie d'un donjon généré aléatoirement, vous affrontez une horde d'ennemis et de boss, tous plus difficiles les uns que les autres. Maintes fois récompensés, Dead Cells, c'est notre bijou indépendant à nous, les Bordelais. Le jeu a reçu énormément d'extensions à la suite de sa sortie, dont le dernier en date, Return to Castlevania, en collaboration avec la licence Castlevania, est sorti au début du mois. Mais nous, on va plutôt s'écouter un morceau issu de son premier contenu additionnel, The Bad Seed, la mauvaise graine, composé par Johan Lolan. On écoute tout de suite donc Prisoner's Reawakening, le réveil du prisonnier, qui est une réorchestration de l'éveil du prisonnier, morceau du premier niveau du jeu.